Pour continuer notre sujet de la maison de Dieu, je propose de lire tout d'abord un passage de l'Évangile selon Matthieu. C'est dans Matthieu 16, verset 15. Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre, répondant, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, répondant, lui dit, « Tu es bienheureux, Simon Barjonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elles. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il enjoignit aux disciples de ne dire à personne qu'il fut le Christ. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il fut ressuscité le troisième jour. Jusqu'ici.
Il est proposé d'avoir deux réunions cet après-midi avec une pause entre les deux, peut-être à peu près après une heure, si ça convient. D'accord. Pour diviser un peu le sujet entre les trois réunions, on pourrait dire que hier, nous nous sommes occupés un peu des ombres ou de quelques types de la maison de Dieu qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans cette réunion, cet après-midi, nous pourrions réfléchir un peu sur la question de la maison de Dieu dans le Nouveau Testament, mais vue de la perspective de Dieu, du côté divin de l'Assemblée comme maison de Dieu. Et après la pause, peut-être on peut regarder un peu le côté pratique, le côté de notre privilège et aussi notre responsabilité pratique en rapport avec ce sujet de la maison de Dieu. Résumé très court de hier soir, nous avons vu dans le livre de la Genèse que le point de départ, c'était que l'homme déchu était loin de Dieu, chassé du jardin et de la présence de Dieu. Mais Dieu avait ce souhait de l'introduire dans sa présence, même dans sa maison. Et dans le livre de Genèse, on ne trouve pas encore la réalisation de cela, mais on trouve déjà un endroit qui parle des principes de cela, et c'est l'endroit de Bethel. Et nous avons vu que Jacob y était deux fois. La première fois, il n'était pas à l'aise du tout, parce qu'il avait une conscience chargée. Il était coupable, et il dit, ce lieu, c'est terrible. C'était un lieu où Dieu se révélait, mais pour Jacob, c'était un lieu terrible. Mais à peu près 20 ans plus tard, il rentre et il se rend compte qu'il y a une condition pratique qui est nécessaire pour se réjouir de la maison de Dieu. Et quand Dieu dit « monte à Bethel », il commande à sa famille d'enlever les faux dieux. Et à ce moment-là, ils sont prêts. Ils lavent leurs vêtements, ils sont dans une condition convenable. Et maintenant, il ne se sent pas seulement à l'aise dans la maison de Dieu, mais il est prêt de construire un autel. Et c'est une deuxième caractéristique. Genèse 28, dans la maison de Dieu, à Bethel, Dieu se révèle. Genèse 35, à Bethel, Dieu reçoit de l'adoration. C'est la réponse, si on veut, à cette révélation de Dieu. Maintenant, dans Exode, nous avons vu que la réalisation de la maison de Dieu devait attendre jusqu'au moment où il y avait un peuple racheté. Et au moment où le peuple était libéré de l'Égypte, de l'esclavage, ils se sont mis à chanter et la maison de Dieu figure dans ce chant. Et la foi l'exprime même dans le passé. Il dit, tu nous as guidés à l'endroit, à la montagne de ton héritage où tu as promis ta présence, ton habitation. Et puis nous avons vu dans le chapitre 25 que le moment était venu où Dieu dit, maintenant, je veux réaliser cela. Vous pouvez commencer à préparer. Et il donne une liste d'affaires ou de matières à apporter. Il dit, ce sont des choses convenables pour construire un sanctuaire pour moi. Et nous avons vu que toutes ces choses parlaient des beautés et des gloires du Seigneur Jésus. Et ce qui est un autre point caractéristique de la maison de Dieu. Là, dans la maison de Dieu, il y a la demeure de sa gloire. Finalement, on avait vu dans Un Roi que le moment était venu où il n'était plus en voyage, mais installé dans le pays promis. Salomon avait construit le temple et encore une fois, le temple était rempli de la présence de Dieu. En fait, c'est la réponse divine. Si tout est fait selon le modèle, soit en Exode, soit en Un Roi, la réponse divine, c'est que la maison de Dieu est remplie de cette nuée de gloire. Et nous avons quelque chose, bien sûr, qui correspond dans le Nouveau Testament. Je l'ai mentionné hier soir. Et nous avons lu dans Matthieu 16 que le Seigneur dit « Je bâtirai mon assemblée ». Mais dans le chapitre 18, il dit, s'il y a deux ou trois réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Ce sont les deux côtés. Le bâtiment est là. Mais si les conditions aussi sont là, si nous sommes réunis en son nom, si le Seigneur est le centre, celui qui dirige tout, il dit, même aujourd'hui, je serai au milieu. On pourrait dire, le bâtiment est rempli de cette nuée de la gloire de Dieu. Alors, après, on avait vu qu'il y avait aussi le côté de la responsabilité. Et cela n'a pas duré longtemps. Et déjà dans les jours de Jéroboam, je mélange toujours ce nom, c'est vraiment difficile pour ma langue. Le royaume était divisé. Et le roi disait, c'est trop difficile d'aller jusqu'à Jérusalem, j'ai une solution plus simple, j'installe les deux veaux, un à Dan et l'autre à Bethel. Et l'endroit Bethel, maison de Dieu, est devenu un endroit d'idolâtrie, un endroit où on a justement abandonné les principes de la maison de Dieu. Et c'est la question d'Élie qu'il pose au jeune prophète Élisée, entre les lignes, en visitant ces quatre endroits, dont un Bethel, il dit, est-ce que tu as réfléchi sur cette question de Bethel, cette question de la maison de Dieu? Pour quelle réalité tu prends parti, tu te décides? Pour la pratique qui est sortie, qui est évolué aujourd'hui, l'idolâtrie, Beth Aven, ou pour le principe du début, la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu. Et aussi, psaume 27, les beautés du Seigneur. Et c'est encore la question pour nous aujourd'hui. Alors, je saute sur quelques siècle. J'espère revenir dans la deuxième réunion. La question de la maison dans le livre d'Esdras. Maintenant, je commence déjà en Matthieu. Et je commençais à lire dans Matthieu 16, verset 15, où le Seigneur pose une question très importante. En fait, c'est la première fois que nous trouvons une mention de l'Assemblée dans le Nouveau Testament. Mais avant de parler de l'Assemblée, le Seigneur pose une question qui ne concerne pas vraiment une vérité ecclésiastique, si on veut, mais une vérité christologique ou qui concerne la personne de Christ. Pour ainsi dire, avant de parler de la maison de Dieu, il dit « je dois parler du fondement ». Et c'est la question la plus importante pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Qu'est-ce que vous dites? Et vous, qui dites-vous que je suis? Alors les disciples, il avait d'abord posé une autre question aux disciples, il avait dit, mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit, mais il y a beaucoup d'avis, hein? Il y a ceux qui disent que tu es Jérémie ou ça. Mais maintenant, ça devient personnel. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Et à ce moment-là, Pierre exprime une confession absolument belle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur approuve de cette confession. Il dit, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela. Ce n'est pas par intuition, réflexion ou tradition, mais c'est une révélation de la part de mon Père. Mais pourquoi c'était si supernaturel de savoir cela? Peut-être vous dites, oui, le Fils de Dieu, le Fils du Père, ce n'était pas vraiment révélé dans l'Ancien Testament si clairement. Mais la première partie, tu es le Christ, c'est quand même un sujet de la prophétie, non? Toutes les prophètes ont parlé du Messie. Alors c'était bien connu. Alors qu'est-ce qui était si spécial? La chose spéciale, c'était bien sûr pas le concept, pas la pensée du Messie, mais le fait qu'il était là. Tu es le Christ. Quand Pierre dit « tu es le Christ », il prend en principe tout l'Ancien Testament, tous les prophètes, les types, tous ceux qui parlent du Messie, et il dit « finalement, j'ai trouvé la clé ». La clé qui ouvre la porte, qui ouvre l'Ancien Testament, j'ai trouvé la personne qui correspond exactement à ce que les prophètes ont annoncé, ce qu'ils ont dit. Tu es le Christ. Et puis il dit, le Fils du Dieu vivant. Alors ça, c'était une révélation complètement neuve, que le Seigneur soit le Fils éternel de Dieu. C'est une expression très intéressante qui est utilisée ici, le Fils du Dieu vivant. Vous trouvez dans le Nouveau Testament le Fils de Dieu, vous trouvez le Fils du Père, vous trouvez le Fils unique, vous trouvez le Fils bien-aimé. En Colossiens, vous trouvez le Fils de son amour. Mais ici, nous avons le Fils du Dieu vivant. Alors, gardez cette pensée. J'espère revenir là-dessus dans une seconde. Alors, le Seigneur dit, oui, c'est une révélation divine. Il dit, moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Alors, Pierre, je pense que vous avez une note aussi. Pierre dit, bon, vous comprenez bien sûr, plus facilement qu'en allemand, que c'est une pierre. En grec, c'est un mot apparenté au mot rocher, juste une lettre de différence. Mais le Seigneur, il montre la relation et la différence. Une pierre, c'est une partie du rocher, si on veut, de la même matière, mais une pierre n'est pas stable, mais le rocher est stable. Et je suis très reconnaissant que l'Église n'est pas construite sur Pierre. Pierre aimait le Seigneur, mais il n'était pas vraiment stable. Et le Seigneur dit, j'ai un fondement bien supérieur. Le fondement, ce n'est pas Pierre, mais c'est le rocher, le roc. Et le roc, c'est quoi? C'est justement ce que Pierre a exprimé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire la vérité sur la personne de Christ. Alors, il faut d'abord être clair sur la personne de Christ avant de pouvoir comprendre l'Église. Et si on enlève la vérité sur la personne de Christ, on enlève le fondement de l'Église. Alors maintenant, le Seigneur, il dit une chose, une phrase, et il faut mettre l'accent vraiment sur chaque mot. Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Dans cette seule phrase, il y a des tomes de vérité. J'ai parlé un peu sur la première partie, sur ce roc. Alors, le fondement, c'est la vérité sur la personne du Fils de Dieu. Maintenant, il dit, je bâtirai. Alors, je bâtirai, ça veut dire que c'est le Seigneur lui-même qui construit. Et c'est pour cela que j'ai dit au début, on parle du côté divin. Dans le côté divin, c'est Dieu ou c'est le Seigneur qui construit cet édifice qu'il appelle Église. Et si c'est le Seigneur qui construit, c'est un travail parfait. Nous allons voir que c'est un bâtiment qui consiste de pierres vivantes. Alors il dit, je bâtirai. Tout d'abord, c'est dans le futur. Cela nous montre que l'Église, c'est quelque chose de spécial qui n'existait pas dans l'Ancien Testament, qui n'existait pas encore à ce moment-là, même pas quand le Seigneur est mort et ressuscité, mais seulement à partir du jour de la Pentecôte. On entend des choses comme ça, les gens disent, oui, l'Église consiste de tous les croyants. C'est vrai. J'aime pas trop cette définition, parce que dans ce cas-là, il faudrait poser la question, mais dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il n'y avait pas d'Église? Il y avait des croyants. Alors l'Église, oui, elle est composée de tous les vrais croyants, mais ce n'est pas tous les vrais croyants à toute époque, dans toutes les époques, qui formaient une Église. L'Église pouvait seulement commencer quand il y avait un homme glorifié dans le ciel qui a envoyé le Saint-Esprit, qui nous a baptisés dans un seul corps. Et à partir de ce moment-là, il y a l'Église. Alors le Seigneur utilise le futur. Et il dit, je bâtirai. Peut-être vous dites, ce n'est pas surprenant, chaque édifice, chaque bâtiment doit être bâti. Ce qui me frappe, c'est que dans Genèse 3, il est dit que Dieu a bâti, je ne sais pas si c'est l'expression en français, normalement il dit qu'il a bâti une femme. Ça c'est étrange, non? Bâtir une femme. En fait, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est la même expression qu'ici. Et je pense que c'est une allusion à ce fait que la femme est aussi une maison. C'est une double image. L'assemblée est représentée comme femme et comme un bâtiment. Alors, sur ce roc, je bâtirai. Je bâtirai. Quoi? L'Église. La première fois que nous trouvons cette expression, dans ce sens, cette expression ecclésia qui veut dire appelée en dehors. Et cette expression me rappelle toujours le cas de Rebecca. Vous vous souvenez quand le serviteur était envoyé par Abraham pour chercher une femme pour Isaac, il a posé cette question: qu'est-ce que je dois faire si je trouve la femme qui convient? Et je pose la question et elle dit oui, mais je veux rester, je veux que Isaac vienne. Et Abraham dit, dans ce cas-là, c'est terminé. Tu peux rentrer, tu fais ton travail, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Rebecca devait être appelée dehors de son environ, son environnement. L'idolâtrie, le paganisme, ce qui l'entourait. Et c'est une très belle image de l'Église qui, moralement, a été appelée en dehors du monde pour appartenir au vrai Isaac. Mais je n'ai pas cité exactement. Hein. Le Seigneur n'a pas dit « je bâtirai l'Église ». Il a dit « je bâtirai mon Église ». J'en suis très content que c'est en fait son Église. Il n'est pas seulement l'architecte qui a conçu l'Église, il n'est pas seulement celui qui construit, le constructeur de l'Église, mais il est aussi le propriétaire. Ce qui est très important sur le niveau pratique, si nous voulons servir les croyants, ceux qui font partie de cette Église, qu'est-ce que Pierre dit? Il dit qu'il faut servir en étant, 1 Pierre 5, hein, en étant des modèles, non pas comme ceux qui exercent du pouvoir sur leur propriété. Alors l'Église n'appartient pas à nous, elle appartient au Seigneur. Alors, une très courte phrase qui contient des richesses immenses, des vérités importantes. Mais le Seigneur ajoute quelque chose, il dit « Et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elles. » Alors l'Hadès, c'est la sphère où se trouvent les esprits des personnes décédées. Les portes de l'Hadès parle peut-être de l'entrée dans cette sphère. Et je crois que Satan a essayé de mobiliser les portes de l'Hadès contre l'Église depuis l'existence de l'Église. Cela n'a pas duré longtemps. L'Église commence en acte 2 et en acte 4 et 5, la résistance commence. On met les apôtres aux prisons. En acte 12, il y a déjà Jacques qui est décapité, il y a Pierre aux prisons. Alors, la mort a été instrumentalisée, hein, utilisée contre l'Église. Et combien de dictateurs, combien de régimes totalitaires ont essayé d'écraser l'Église de Dieu, que le Seigneur appelle mon Église. Et qu'est-ce qu'il dit? Les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elles. Et c'est juste. C'est correct, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. L'Église est encore là et elle sera encore là au moment de l'enlèvement. Comment c'est possible de créer quelque chose qui consiste de personnes qui sont tous soumises à la mort, mais qui ne sera pas vaincue par la mort? C'est justement parce que c'est l'Église qui a été bâti par le Fils du Dieu vivant. Mais ce qui est très beau, c'est ce qui suit. Verset 21, « Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il allait souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fût mis à mort. » C'est très frappant, le moment où le Seigneur révèle la vérité sur son Église, il commence à parler de sa mort. Nous allons retrouver cela dans un instant, j'espère, dans Éphésiens 2. C'était impossible d'avoir le seul corps, d'avoir l'Église sans que le Seigneur entre dans la mort. On le voit même déjà au début du livre de la Genèse, quand Ève a été formée, ça marchait comment? Un sommeil profond est tombé sur Adam. Belle image sur la première page, si on veut, de la Bible, que le Seigneur devait tomber, non pas dans un sommeil, mais il devait entrer dans la mort pour que Ève soit formée. Et dans ce contexte, le Seigneur annonce ici sa mort, mais il ajoute « et qu'il fut ressuscité le troisième jour ». Alors, le Fils de Dieu vivant entre dans la mort. Là, il a vaincu la mort, il sort de la mort et il construit l'Église qui ne peut pas être vaincue par la mort. À 1 Timothée 3, Paul appelle l'Église comment? 1 Timothée 3, 15. Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant. Maintenant, on a le cercle complet. Hein? Le Seigneur est le Fils du Dieu vivant. Il entre dans la mort pour vaincre la mort. Il construit l'assemblée et puis l'assemblée est l'assemblée du Dieu vivant. C'est très beau, hein? Dans l'Ancien Testament, tout était mort. La loi s'adressait à l'homme dans la chair. Mais dans le Nouveau Testament, nous allons voir aussi en Pierre, 1 Pierre 2, il s'agit de pierre vivante. Le Seigneur a apporté la vie. J'aimerais parler aussi de Éphésiens 2 et 1 Pierre 2, rapidement. Éphésiens 2, le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Dans Éphésiens, dans un sens, nous reculons. Parce que dans Matthieu, c'était le moment où le Seigneur Jésus était sur la terre et il a annoncé personnellement qu'il allait bâtir son Église. Mais Éphésiens nous ramène dans l'éternité passée. Je ne sais pas si on peut dire cela en français, dans les chambres ou les cabinets du conseil éternel de Dieu. Disons, à l'endroit où nous écoutons la voix des personnes divines qui nous parlent de leurs propos. Quand vous commencez à lire l'Épître aux Éphésiens, vous remarquez très rapidement une différence avec Romains. Romains, c'est plus simple. Romains dit « nous avons un problème, nous avons péché » et l'Épître développe la solution. « Nous avons un autre problème, c'est la puissance du péché et il y a une solution. » Mais Éphésiens ne commence pas avec nos problèmes du tout. Éphésiens commence avec Dieu. avec Dieu qui ne sait plus à bénir. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé son fils, il a regardé l'œuvre de son fils sur la croix et il a dit, mon fils m'a tellement glorifié que maintenant je veux ouvrir les portes, les fenêtres des cieux pour verser la bénédiction sur chaque personne qui est liée avec mon fils. Vous connaissez cette petite histoire, peut-être il y avait un homme très pauvre, il avait une dette et un jour, je ne sais pas pourquoi, mais il a eu l'occasion de parler au roi. Et le roi, il était bienveillant, il a dit, mais si je peux t'aider, tu dois me dire, et il lui raconte, j'ai cette dette, j'ai ce problème. Bon, d'accord, le roi s'en va, et un peu plus tard, il y a quelqu'un qui est envoyé de la part du roi et qui apporte de l'or. Et le bonhomme, il voit le montant d'or et il dit, mais c'est bien trop. C'est bien plus grand que ma dette. Et il dit au roi, mais écoute, je t'ai raconté cette histoire de ma dette, mais ce que tu m'as envoyé, c'est une somme multiple, beaucoup de fois ce qu'il faut. Et le roi, il dit comme ça, il dit, je ne m'intéresse pas tellement pour la dette, je n'ai pas envoyé l'or pour payer ta dette. Je t'ai envoyé l'or pour montrer combien je suis riche. C'est autre chose. Et ça, c'est Éphésiens. Éphésiens, ce n'est pas la question de notre dette, c'est la question de Dieu qui veut montrer sa richesse envers nous. Et dans le premier chapitre, il développe ses conseils qu'il a eus avec nous, d'abord individuellement et puis collectivement. Individuellement, il nous a comblés de toutes les bénédictions spirituelles. Et collectivement, ce qu'il a fait de nous, c'est exprimé dans cette prière de Paul, à partir du verset 15. Il dit, Dieu a utilisé une puissance absolument immense. Et cette puissance immense, ce n'est pas la puissance qu'il a utilisée pour la création du monde, mais une puissance encore plus grande. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et disons, dans quelle situation on aurait besoin d'une puissance encore plus grande que pour créer l'univers ? Et Paul dit, Dieu a utilisé cette puissance et qu'est-ce qu'il en a fait ? Il a pris un Christ mort, il l'a ressuscité et lui a donné une place au-dessus de toute chose. Alors, qui parmi nous, ou qui dans le monde entier, pourrait prendre une personne morte et lui donner une autorité quelconque? C'est impossible. Mais Dieu a fait cela. Il a ressuscité Christ et il lui a placé en tant qu'homme, au lieu de toute puissance, toute principauté, et il lui a donné l'autorité la plus grande et la gloire la plus grande. Mais maintenant, ça, c'est ce qui nous surpasse complètement. Il a déployé la même puissance envers nous qui étions morts. Il nous a ressuscités et il nous a liés avec cette personne glorieuse dans le ciel. Il appelle cela, à la fin du premier chapitre, il a assujetté toute chose sous ses pieds, il l'a donné pour être chef sur toute chose à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alors ça, c'est le conseil de Dieu, en très peu de mots. De nous unir ensemble, de nous lier avec cette personne glorieuse dans le ciel. Mais maintenant, dans le chapitre 2, il nous montre comment il a fait cela, comment il a créé cette assemblée. Et normalement, si vous voulez construire un édifice excellent, il faut de bons matériels, matériaux, merci. De bons matériaux. Par exemple, à Strasbourg, je pense, de bonnes pierres. Hein? Oui. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il a pris des matériaux, les matériaux les plus mauvais qu'on peut s'imaginer. Il a pris des hommes qui étaient morts dans leur faute et dans leur transgression. Et il les a ressuscités, il leur a donné la vie, il les a placés avec Christ dans la gloire, les lieux célestes. Et maintenant, il a fait, il change d'image maintenant, il en a fait autre chose. Il en a aussi construit un bâtiment. Et c'est le sujet à partir du verset 15. Je veux juste mentionner dans le verset 14, il a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements. Vous voyez, quand le Seigneur a dit « Je bâtirai mon église », ce serait une église composée de personnes de toutes les nations, pas seulement des personnes juives. Vous voyez, c'était un propos complètement impossible dans le contexte de l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que Dieu avait construit ce mur mitoyen, ce mur de séparation. Si Dieu choisit un peuple, il dit « je vais séparer, je vais réserver ce peuple pour avoir une place spéciale, séparée de toutes les nations ». Dans ce cadre, c'est complètement impossible d'avoir une église composée de personnes croyantes de toutes les nations. Mais c'est Dieu qui a construit ce mur. Alors comment on peut démolir ce mur? Bon, si Dieu a construit le mur, il a le droit d'enlever le mur. Mais pour achever cela, le Seigneur est entré justement dans la mort. Trouvons cela très souvent quand il est question de l'Église. Nous voyons que le Seigneur a dû entrer dans la mort. Il a enlevé ce mur et à partir de cela, Dieu a pu former l'Église dans un seul homme nouveau. Et nous avons lu à partir du verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. » Dans tout ce paragraphe, nous trouvons une pensée continuée, et c'est une pensée qui est liée à la notion de distance. Autrefois, on était loin, mais Dieu a voulu nous avoir en proximité, près de lui. Je vous rappelle ce qu'on a vu hier soir. L'homme était chassé du paradis, il était loin. Et si on avait demandé à Adam et Ève, quelle est la meilleure chose qui peut vous arriver? Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit, bon, que les chérubins disparaissent et qu'on peut rentrer dans le paradis et qu'on peut être de nouveau innocent. Mais Dieu ne l'a pas fait. Il a fait quelque chose de bien meilleur, bien supérieur. Parce que dans le paradis, ils étaient quoi? Ils étaient dans un jardin. Mais Dieu a dit, d'accord, ils ont perdu le jardin, mais je vais trouver un moyen, non pas pour les réintroduire dans le jardin, mais pour les introduire dans ma maison. Et cette notion de distance et de proximité est trouvé dans beaucoup de versets dans ce passage. Si on regarde rapidement, il dit dans le verset 13, Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ. Alors, j'ai dit que l'homme déchu était loin. Mais ici, on a encore autre chose. Parce que parmi la race déchue, il y avait ces deux groupes, il y avait Israël et les nations. Et Israël était déjà loin. Mais ils avaient un tabernacle. Ils avaient la présence de Dieu. Ils avaient, je pourrais dire, une image qui montre qu'est-ce que ça veut dire de s'approcher de Dieu. Mais en même temps, ils étaient barrés de la présence de Dieu. Parce que qui pouvait entrer dans le sanctuaire? Juste les sacrificateurs. Qui pouvait entrer dans le très saint lieu? Juste le souverain sacrificateur une fois par an et avec le sang. Alors même Israël, qui sont appelés proches ici, ils étaient encore loin. Mais les Éphésiens ne faisaient pas partie des Juifs, ils étaient encore bien plus loin qu'Israël. Ils n'avaient aucune relation avec Dieu. Ils étaient étrangers aux promesses, ils étaient étrangers aux alliances, ils n'avaient aucun droit. Alors, c'est ce que Paul dit dans le verset 13, « Vous étiez autrefois loin, mais vous avez été approchés par le sang de Christ. » Alors, dans le verset 19, il dit, « Vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes citoyens et gens de la maison de Dieu. » Alors, d'abord, ils étaient étrangers, mais après, ils sont concitoyens, et après, ils sont gens de la maison. Quelques-uns parmi vous savent que nous avons vécu à Londres plusieurs années en famille. Et à Londres, bien sûr, il y avait aussi le palais de la reine. Et on pourrait dire que autrefois, on était des étrangers. Après, la reine nous a donné la nationalité britannique. Alors, à partir de ce moment-là, on était des citoyens de son pays. On habitait même dans la même ville. On pourrait dire qu'on était des concitoyens. On a aussi vu sa maison, mais elle ne nous a jamais invités. On n'a jamais vu aller boire le thé avec la reine. Il y avait un grand portail devant le palais Buckingham et c'était fermé. Mais Dieu dit, je vous ai approché, vous êtes venu dans ma maison, pas seulement dans ma ville, concitoyens, mais vous êtes devenus des gens de la maison de Dieu. Mais il y a encore plus. Il ne dit pas seulement des gens de la maison de Dieu. Il dit, ayant été édifiés. Alors maintenant, nous ne sommes pas seulement dans la maison de Dieu, mais nous sommes la maison de Dieu. Nous avons été édifiés. Alors, comment l'Église a été construite? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce ne sont pas les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas annoncé l'Église. Ils ont annoncé l'Évangile, oui, mais pas l'Église, pas le mystère. Mais ce sont les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. Ils ont écrit le Nouveau Testament. Et cela, c'est le fondement de l'Église. Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin. Je ne suis pas de constructeur de maison, mais on m'a expliqué cela, qu'autrefois, quand on construisait une maison, la chose la plus importante, c'était une pierre spéciale qu'on plaçait dans un coin. Et ça, c'était le point de référence. Et on a mesuré tout à partir de cette pierre de coin. Les distances horizontales, verticales, etc., les angles, tout partait de cette pierre de coin. Et ça, c'est le Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue pratique? Dieu dit que la maison de Dieu, la place centrale, la place importante de laquelle tout dépend, c'est la personne de Christ. Et je pense que nous trouvons un très bel exemple dans le premier épître aux Corinthiens pour comprendre l'application pratique. Parce que dans Corinthiens, Paul traite beaucoup de problèmes pratiques et à beaucoup de reprises, il fait référence à la pierre maîtresse du coin. Par exemple, les Corinthiens étaient en train de former des groupes. Nous sommes ceux d'Apollos, nous sommes ceux de Képhas, etc. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit, mais est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Non, il y avait seulement un seul qui a été crucifié pour eux. Alors, il y a seulement un seul qu'il faut suivre. Il ne faut pas avoir des conducteurs autres que Christ. Bon, il y a des conducteurs dans l'Assemblée, dans le peuple de Dieu. Mais il ne faut pas se nommer selon eux. Il ne faut pas former des partis en fonction des conducteurs. Alors, pour corriger le problème, Paul parle de Christ. Seulement Christ est crucifié. Au chapitre 5, il y a un autre problème. Il y a le problème d'un cas d'immoralité grave. Comment on peut parler de Christ dans ce contexte? Mais oui, Paul, il dit, Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Alors, il répond au problème en rappelant la pierre maîtresse du coin. Et on pourrait continuer à travers cet épître. Par exemple, dans le chapitre 8, il parle de la question de donner des dons matériels en tant que chrétien. Et comment il les encourage? Il dit, mais vous connaissez, en fait c'est le deuxième épître, mais la deuxième épître, mais ne dérange pas, vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus qui est devenu pauvre pour que nous soyons riches. On pouvait parler de la table du Seigneur, on pouvait parler de la Pâque, et à chaque reprise, il introduit le Seigneur Jésus pour les aider dans les questions pratiques. Alors, très important de voir cette pensée de Dieu sur sa maison, le Seigneur Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais j'aimerais seulement faire ressortir un point. Nous trouvons maintenant deux pensées liées à la maison de Dieu. La première pensée, c'est qu'il y a un temple qui est en train de croître. Il y a des pierres qui sont rajoutées. Et on pourrait dire que ce temple a été commencé à croître le jour de la Pentecôte, quand les premières pierres étaient mises en place. Il est encore en train de croître aujourd'hui et il sera fini quand le Seigneur vient pour nous enlever. Mais il y a une deuxième pensée, et c'est que déjà, à tout moment dans cette époque, l'Église était une habitation de Dieu. Ça, c'est la pensée d'un bâtiment fini, complet, prêt pour que Dieu habite là, dans ce bâtiment. Et il dit une habitation de Dieu par l'Esprit. Alors, dans le tabernacle, Dieu a habité par la nuée, si on veut. Cela a démontré sa présence. Dans le temple aussi. La troisième habitation, c'était la personne du Seigneur, où il dit, il a plu à la plénitude de Dieu d'habiter en lui. Et il parle de son corps comme du temple de Dieu, comme du temple. Mais la quatrième réalisation, c'est l'assemblée. Et l'assemblée est l'habitation de Dieu par l'Esprit. Il habite dans l'assemblée par son Esprit. Pour cela, il veut aussi guider, nous guider par l'Esprit quand nous sommes réunis autour de son nom. J'aime pas du tout votre horloge là, elle est trop vite. Bon, peut-être rapidement sur quelques pensées sur un passage dans 1 Pierre 2. Pierre 2, verset 4. Le Seigneur, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'on trouve dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une maîtresse pierre de coin, élue précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix. Mais pour les désobéissants, la pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin, une pierre d'achoppement et un rocher de chute, lesquels heurtent contre la parole, étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificateur royale, une nation sainte, un peuple acquis. Pierre aussi présente la maison de Dieu. Il présente aussi la maison de Dieu de la perspective de Dieu. C'est Dieu qui construit. Les pierres qui sont rajoutées sont des pierres vivantes. Il y a seulement ce qui est vrai. Et ce qui est très beau, c'est que tout commence avec une pierre vivante, et ça, c'est le Seigneur. Une pierre vivante, c'est quelque chose de rare, non? Normalement, on comprend bien que les pierres ont l'avantage d'être fermes. On peut bien construire avec, mais les pierres sont froides et mortes. Mais pas quand Dieu construit. Il construit avec des pierres vivantes, parce que le Seigneur était une pierre vivante. Il était complètement stable, mais il a apporté la vie. Et nous recevons la vie parce que nous sommes venus à cette pierre vivante. Alors, comment se manifeste cette vie? Ça me touche beaucoup. Dans le verset 5, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous avons vu hier ces deux choses. Dans sa maison, Dieu se révèle, et dans sa maison, Dieu reçoit l'adoration. Et nous retrouvons cela ici. Pierre dit, vous êtes une sacrificature sainte. Alors, que font les sacrificateurs? Je crois que les enfants connaissent cela, ils ont tous vu peut-être des images du tabernacle. Il y avait ces gens en robe blanche, hein, les sacrificateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les animaux, ils les ont tués, ils les ont mis sur l'autel. Alors Pierre dit, vous êtes des sacrificateurs. Vous pouvez apporter des sacrifices à Dieu. Il ne faut pas amener des brebis demain. Mais il dit des sacrifices spirituels. Mais les sacrifices spirituels, il faut bien apporter. Il dit, c'est agréable à Dieu. Je ne sais pas si vous avez rencontré cette difficulté que j'ai ressentie beaucoup de fois, surtout en tant que jeune homme. J'ai pensé, oui, apporter une sacrifice spirituel, ça, je comprends bien, ça veut dire parler du Seigneur Jésus, exprimer quelque chose sur ses gloires et dire cela à Dieu. Mais comment je peux dire quelque chose à Dieu qui n'est pas imparfait et que Dieu ne sait pas beaucoup mieux que moi, dans une façon bien plus profonde que moi? Alors comment je peux dire quelque chose? Je dois me taire. Je suis très reconnaissant de ce verset qui ne dit pas des sacrifices spirituels agréables à partir de votre éloquence ou de votre connaissance ou de votre sagesse. La profondeur de votre connaissance, non. Il dit agréable par Jésus-Christ. Alors Dieu dit, même si c'est un petit mot, merci, Père, pour ton Fils, ce don merveilleux. Dieu dit, si cela parle de mon Fils, c'est agréable. Même si c'est une action de grâce très, très simple. Et aussi, comment cela encourage les autres? Peut-être, je l'ai vu récemment, là, il y a un jeune frère qui n'a jamais participé et il ouvre la bouche, il exprime une action de grâce très simple. Merci Seigneur d'être mort pour nous. Amen. Et c'était rafraîchissant, c'était encourageant. Il y avait d'autres qui ont participé. Alors c'est quelque chose de très beau. Cela nous rappelle un peu l'atmosphère en Jean 12, quand Marie a versé la narde et la maison fut remplie de la bonne odeur. Alors, s'il y a des lèvres qui expriment les beautés du Seigneur, la maison est remplie de cette bonne odeur. J'aime beaucoup ce psaume qui parle de cela, ce psaume 45. Premier verset, mon cœur bouillonne d'une bonne parole. Je dis ce que j'ai composé au sujet du roi, ma langue est le style d'un écrivain habile. Est-ce que le style, c'est le stylo, non? C'est ce qu'on utilise pour écrire. Est-ce que c'est toujours un style d'un écrivain habile? Vous connaissez ça, hein? Vous voulez prendre une note au téléphone et prenez un stylo et il n'écrit pas, vous prenez un autre et il n'écrit pas, et le troisième n'écrit pas et ça devient embarrassant, hein? Mais pas dans ce psaume. Pourquoi il peut dire ma langue est le style d'un écrivain habile? Comment ça peut nous arriver que la langue est prête? Je pense que la réponse est dans la première moitié du verset. Mon cœur bouillonne d'une bonne parole. Si mon cœur est plein du Seigneur Jésus, si on a découvert quelque chose du Seigneur Jésus dans la vie, le cœur commencera à bouillonner. Et cela ne restera pas dedans, cela va sortir. Et à ce point-là, on peut louer le Seigneur. Et je dirais même, on ne peut que louer le Seigneur. On ne peut pas se taire. Il faut exprimer quelque chose. Dans 1 Corinthiens 12, c'est un contexte un peu différent, mais Paul en parle de cette question de s'exprimer, il dit, verset 2, « Vous savez que quand vous étiez gens des nations, vous étiez entraînés vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. » Alors, il parle aux Corinthiens, qui étaient venus du paganisme, de l'idolâtrie. Et il dit, regardez, Dieu vous a donné quelque chose de merveilleux, il vous a donné des dons de grâce. Et ce qui est merveilleux, c'est que les dons de grâce expriment quelque chose. Et maintenant, il fait cette comparaison, il dit, mais souvenez-vous, quand vous étiez dans le monde encore, il y avait ces idoles. Et bien sûr que les idoles de pierre, bon, ils sont là dans le temple des idoles, mais ils ne se mettront pas à parler. Ce sont des idoles muettes. Elle dit, mais maintenant vous connaissez autre chose. Vous connaissez le travail du Saint-Esprit qui fait que quelque chose se passe dans le cœur et au prochain moment, quelque chose se passe sur les lèvres. Et la langue devient le style d'un écrivain habile. Et dans ce cas-là, ce sera un peu comme dans Romains 12. Je lis juste le verset. Où il parle de louer Dieu d'une seule bouche. Oui, merci. Romains 15, afin que d'un commun accord, d'une même bouche, vous glorifierez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien sûr, c'était juste après ce paragraphe où il avait parlé de cette question des faibles. Il dit, il ne faut pas mépriser les faibles. Et les faibles ne doivent pas juger les forts. Il faut avoir la bonne attitude. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Cela se traduit en louange. Et le Seigneur apprécie cela. Bien sûr, le Seigneur voit ce qui est dans nos cœurs, mais il apprécie aussi si c'est exprimé. Juste encore un verset sur cela. Que je trouve très touchant dans le Cantique des Cantiques. Il y a l'époux qui parle à l'épouse. Cantique des Cantiques 2, verset 14, il dit ceci. Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce et ton visage est agréable. C'est clair, hein? Un époux, il veut voir l'épouse. Il ne veut pas seulement voir l'épouse, il veut aussi entendre l'épouse. Il dit, c'est plein de grâce, hein? Il dit, ta voix est douce. Et le Seigneur nous dit, j'aime entendre ta voix. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, j'aimerais un holocauste chaque matin, chaque soir. Alors, il dit, j'aime entendre ta voix. J'aime être rappelé ce que mon fils a achevé sur la croix, l'œuvre de mon fils. J'aime cet holocauste régulier. Il aime entendre notre voix personnellement et bien sûr aussi en assemblée. Alors Pierre dit, vous êtes une sacrificature pour apporter des sacrifices spirituels. Et quel encouragement agréable par Jésus-Christ. Peut-être je m'arrête là. Nous avons vu alors le Seigneur construit son Église, Matthieu 18. Cela faisait partie des conseils de Dieu, l'Église comme habitation de Dieu en esprit. et 1 Pierre 2, dans cette maison de Dieu, il y a une sacrificature. Il y a une réponse à la révélation de Dieu. Il y a une réponse en adoration, en sacrifice spirituel.